Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canut si vous nous rejoignez. Bienvenue en tout cas pour ce Canut Info du jeudi 18 janvier 2018. Nous sommes avec vous jusqu'à 20h. Et quand je dis nous sommes, c'est-à-dire Laurent qui ce soir est au micro vert écolo.
Oui.
Et moi malheureusement j'ai le micro bleu des Républicains. Mais oui, on ne choisit pas toujours où on s'assoit. Enfin si, on peut choisir à Radio Canut, mais bon, le micro était bleu ce soir. Alors on va vous parler de plein de choses. Nous partirons en Grèce, parler de trahison, ça sera avec Laurent. Moi je vous emmènerai plutôt côté Asie. Nous parlerons des deux Corées, nous parlons de Hong Kong aussi. Et puis Laurent nous parlera ensuite de bioéthique. Je ne sais pas du tout de quoi Laurent va nous parler, mais en tout cas, il va nous parler de bioéthique, c'est son titre. Et puis, nous parlerons de l'avenir du travail avec les micro-entreprises. Nous reviendrons sur EuropaCorp. Je m'étais énervée il n'y a pas très 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 longtemps, mais nous allons donner une petite suite. Et puis ensuite, nous aurons un peu d'environnement et d'énergie, avec du nucléaire par exemple, mais aussi une marée noire. Et puis, si on a le temps, on ira du côté de Nice. Mais ça, c'est si on a le temps. Et puis quand même, en ouverture, on voudrait juste dire que nous sommes contents et contentes de la fin de cette lutte de plusieurs décennies, alors qu'il ne se passait pas dans notre jolie région. Mais à l'autre bout, avec des zadistes qui ont lutté ces dernières années âprement, il faut bien le dire, et avec cette victoire, parce que finalement, il faut dire ce qui est, de la fin de cet aéroport prévu à Notre-Dame-des-Landes. C'est fini, ça y est, enfin... En tout cas, on l'espère, on croise les doigts, même si vous savez, nous sommes rationalistes et nous ne croyons pas trop aux superstitions, mais on va quand même toucher du bois, enfin tout ce qu'il faudra pour que cela soit fait et définitif. Ce qui est bien, c'est que ça arrive quand même au début du mandat de Monsieur Macron, donc il ne va pas y avoir demain un autre président qui pourrait changer d'avis hein, dans 3 mois, parce qu'il y aura une nouvelle élection. Malgré tout, ça ne nous empêche pas d'être très heureux et très heureuses de ce qui est en train de se passer. Pour les zadistes, ben, on sait que ça a quand même été aussi un petit moment d'euphorie et de bonheur, hein, une joie immense. On sait que d'autres, une partie de ces zadistes vont certainement rejoindre d'autres luttes, on le sait aussi, parce qu'il y a des militants et des militantes qui, je crois, sont un peu des militants à vie hein, sur ce genre de sujet. Alors on sait que certains et certaines vont rejoindre la lutte à Bure, par exemple.
Ce serait une bonne idée, oui.
Hein, parce que, alors nous, on n'y est pas. Alors, on est en train d'inciter d'autres à y aller, mais enfin, on peut pas être de partout, vous me direz. Ben on sait qu'il y a, voilà, c'est une lutte qui est aussi en train de monter, de prendre une certaine ampleur. Bon, voilà. Moi, j'aimerais quand même remettre la palme de la réaction bête, débile, et forcément de l'extrême droite, à monsieur Sébastien Chenu, du Front National, donc, qui a parlé de l'évacuation de la ZAD, hein, parce que vous savez, vous avez tous entendu que donc il va pas y avoir une expulsion tout de suite, c'est prévu au printemps, le printemps c'est quand même large, que le but c'est dégager les routes, hein, c'est ce que monsieur Collomb, notre Gérard à nous, a expliqué aux médias ce matin, et monsieur Sébastien Chenu a donc expliqué pour cette évacuation qu'il y avait des squatteurs, je le cite, ces squatteurs délinquants crasseux qu'on pourrait sortir par les dreadlocks assez rapidement. Oui, typique de M. Jean-Marie Le Pen, ouais. Il reprend quand même un peu le flambeau. Hein,
on rappellera quand même qu'il y a peut-être des dreads, des gens avec des dreads sur la ZAD. On a le droit d'avoir des dreads. Hein.
Oui.
Mais il y a aussi, et là il a l'air de l'oublier, mais bon, c'est un imbécile, nous le savions d'avance, qu'il y a aussi des paysans dont les terres ont été réquisitionnées et qui sont toujours sur la ZAD. Eux, j'espère qu'on va leur rendre leurs terres, hein, puisqu'elles ont été réquisitionnées, c'est-à-dire volées par l'État. Hein, ça veut dire ça, une réquisition, c'est volé par l'État. Donc voilà, on espère que eux, ils ont toute la légitimité pour rester. Et puis les autres ont sûrement aussi à construire un projet alternatif. Donc ça va être le truc très compliqué. On va voir ce qui va se mettre en place. Mais il y a un truc quand même normalement qui devrait être ultra logique, c'est que les anciens agriculteurs devraient pouvoir récupérer leurs terres. Ça, c'est dans la logique de justice sociale. Après, le gouvernement, jusqu'à maintenant, ne travaille pas dans la justice sociale. Donc, ça se passera peut-être pas comme ça.
Ce qu'on va suivre aussi, c'est les dédommagements pour Vinci, ce groupe qui, par son contrat, se retrouve à devoir réclamer des sous à l'État français, puisqu'il n'a pas pu aller au bout de sa construction.
C'est lui qui va gagner, puisqu'ils vont agrandir l'autre aéroport, et c'est lui qui a la gestion de l'autre aéroport. Donc, je pense.
Alors, normalement, il y a un appel d'offres qui va se refaire pour cet agrandissement, mais on a une chance de penser que Vinci va être sur les premiers rangs, enfin sur le premier rang en tout cas.
Surtout qu'il gère déjà l'aéroport.
Donc, voilà, en tout cas, on pense toujours évidemment aux capitalistes hein, dans ce genre d'affaires, c'est le petit bémol évidemment pour nous, mais en tout cas on vous laisse penser que comme vous c'est très certainement qui vous nous écoutez, ça a été pour nous un grand grand bonheur quand même de la fin de cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et donc on va parler de trahison tout de suite.
Ouais, on va aller en Grèce avec Tsipras et ses différents ministres, enfin Alexis Tsipras hein, c'est le premier ministre, donc un énorme traître de la gauche, mais ça vous le saviez déjà. De toute façon je pense que les gauches de gouvernement, les gauches élues, alors lui il vient de l'extrême gauche, donc il serait proche de Mélenchon hein, dans l'idée, mais il y a aussi ceux proches du PS, quand ils sont élus, deviennent tous des traîtres, hein, c'est bien évidemment parce que les élections transforment ces gens, le pouvoir les transforme et le pouvoir détruit tout. Et donc lundi, donc c'était un peu l'aboutissement des dernières tractations et des derniers événements en Grèce, puisque il a été voté une nouvelle législation contenant plein de choses, mais la chose symbolique dedans, c'est la restriction au droit de grève, votée donc malgré l'opposition de tous les syndicats, par un gouvernement mené soi-disant par l'extrême gauche, ce qui nous fait bien rire. Ou peut-être pleurer d'ailleurs, c'est peut-être plutôt de là dont il faut aller. Alors bien sûr, Alexis Tsipras y est allé, a dit « Ah non mais attendez, les grèves ne sont ni abolies ni menacées par ce gouvernement et par cette loi. » Oui, c'est ça. En tout cas, le Parlement a adopté ces mesures. Alors, le gros changement, c'est que c'est l'équivalent à ce qui se passe au Royaume-Uni. Pour qu'il puisse y avoir une grève, il faut que les syndicats fassent voter leurs membres à jour de cotisation et qu'ils aient plus de 50% de leurs membres à jour de cotisation d'accord pour déclencher un arrêt de travail et une grève. Alors bon, ça semble quand même très très difficile à obtenir. On n'a pas toujours la moitié des syndiqués hein, qui ont envie de se mettre en grève. Ça va limiter beaucoup les actions. Faut dire que depuis le début de la crise grecque, on va dire, une cinquantaine de journées de grève générale ont existé, ont eu lieu, ont mobilisé et ont énervé. Alors au début, les gouvernements présents, socialistes et autres, et puis maintenant ont énervé aussi l'extrême gauche qui finalement, quand elle est au pouvoir, eh ben, détestent autant les salariés et les syndicats que la gauche, la droite ou l'extrême droite. Il y a finalement plus beaucoup de différence quand on est Premier ministre ou ministre tout court. Donc voilà. Alors, les grosses grèves générales qui voilà, commençaient à un niveau local et puis après, il y avait des secteurs publics, privés, autres qui rentraient dans le jeu, ça va être compliqué. Donc voilà, alors faut savoir quand même qu'il y a eu des dernières mobilisations. Vendredi, donc là c'était lundi, on était le 15 janvier, le vote. Le vendredi dernier, d'avant, donc le 12 janvier, grosse mobilisation, avec les deux grands syndicats publics et privés qui soutenaient le mouvement contre justement cette loi, avec pas mal de mobilisations, des manifestants dans les rues d'Athènes, blocage de certains... du port, du Pirée, des hôpitaux, enfin de pas mal de choses, une mobilisation qui finalement aura abouti à rien, peut-être un barreau d'honneur, mais pour montrer qu'effectivement il y a quand même encore de la résistance. Donc voilà, donc avec l'Angleterre, hein, en Europe, la Grèce est le pays qui restreint le plus aujourd'hui le droit de grève, digne de ce qu'a fait Margaret Thatcher, parce que c'est Margaret Thatcher en fait qui est à l'origine de cette restriction du droit de grève, ce qui est logique, hein. Une femme autoritaire de droite, le sexe n'a rien à voir dans l'autoritarisme et le fait qu'elle soit de droite, hein, mais cette premier ministre de droite ultra-autoritaire avait fait voter une loi qui obligeait les syndicats à organiser à leurs frais un vote à bulletin secret pour déclencher un arrêt de travail, c'est-à-dire une grève, et fallait atteindre là aussi 50% des salariés. Donc ça a été énorme, hein, en Angleterre, disparition quasi importante des grèves. Elles ont pas toutes disparues, il y a toujours beaucoup de grèves en Angleterre, mais une partie de ces grèves peut être déclarée comme illégale. Et alors il y a un exemple classique, hein, chez Total en 2009, une grève qui sera finalement déclarée illégale par les tribunaux, parce que respectant pas cette fameuse loi qu'avait fait voter Margaret Thatcher, et les 900 grévistes avaient été licenciés. Voilà ce que prépare la Grèce, ce gouvernement dit d'extrême gauche. Voilà, donc grosso modo, hein, Thatcher, elle est arrivée à diviser par 10 les grèves. Il faut savoir que Cameron, David de son prénom, avait lui aussi encore aggravé, on va dire, cette loi. Alors, le lendemain, mardi, donc il y a deux jours, à nouveau des petites manifestations pour dire, on s'est fait avoir, mais on le montre encore. Voilà, aujourd'hui, c'est assez triste. Alors pourquoi il a fait passer ça? Alors il y a plein d'autres mesures, je ne vais pas détailler. Le père Tsipras, parce que il y a à nouveau des négociations. Le but, c'est de finir cette troisième et avant-dernière évaluation du plan de sauvegarde avec l'Europe. Et donc... voilà, il a fait preuve de bonne volonté. Regardez, j'ai fait aussi bien que Thatcher. Vous allez pouvoir me donner les 6,5 milliards d'euros qu'il attend avant la quatrième et dernière évaluation, parce qu'il y en aura quatre au total. C'est juste un traître, c'est juste une horreur. Alors bien sûr, on a le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici. Alors lui aussi, on le connaît bien, hein, socialiste. Donc social traître, qui a beaucoup détruit du droit social en France, avec ses amis du Parti Socialiste quand ils étaient au pouvoir. Il a dit, c'était difficile, ces réformes, je le conçois, mais c'était nécessaire. Ah là 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 là, c'est beau. Voilà. Donc voilà, extrême gauche, gauche, droite, extrême droite, pour casser le système social, eh ben, ils sont tous main dans la main, comme quoi c'est peut-être finalement un autre système que la démocratie représentative qui pourrait être représentative du peuple. En tout cas, là, on a vraiment un exemple comme quoi les amis de Mélenchon et compagnie sont comme les autres. Et triste, hein, quand même. Parce que, bon, on y croyait au tout début du vote de l'élection de Tsipras et ses amis.
Alors peut-être que dans vos vœux 2018, vous avez rêvé de paix dans le monde, de beauté, toutes ces choses, hein. La fin de la guerre.
Non.
Bon, alors je suis sûre que si, dans les auditeurs et les autrices, il y a des gens qui espèrent quand même.
Il faut faire des vœux réalistes, sinon c'est pas drôle.
Bah, en fait, tu veux pas de vœux, tout simplement, sinon. En tout cas, du côté des deux Corées, on essaye de faire une avancée. On parle pas de paix, mais on va dire une avancée, un pas l'un vers l'autre, il faut le dire. Donc on a parlé il n'y a pas très longtemps des JO, de la possibilité de la Corée du Nord d'y aller. Et alors donc, vous savez que les délégations du Sud et du Nord se sont rencontrées dans des petites maisons bleues hein, sur la DMZ, il n'y a pas très longtemps. Et que donc l'idée maintenant, c'est de continuer à être dans la diplomatie, dans le discours, dans la rencontre. Et que donc ces Jeux Olympiques d'hiver qui font se dérouler en Corée du Sud peuvent être un moment de rencontre. Ça va pas être la paix, hein, ça va pas changer la face du monde, mais c'est l'idée que les deux parties se parlent et continuent à se parler et ne soient pas simplement dans la menace comme pratique finalement Monsieur Trump. Il va y avoir donc ce qui est proposé, c'est que les deux délégations du Sud et du Nord, le 9 février, hein, pour je sais pas si c'est le 8 ou le 9 d'ailleurs, la cérémonie d'ouverture pour ces JO d'hiver. En tout cas, les Jeux, même si c'est le 9 février, excusez-moi, je suis en train de vérifier, c'est que lors de la grande parade avec les drapeaux, vous savez, c'est que les deux délégations soient unies derrière le drapeau de l'unification, qui est un drapeau blanc et bleu, qui existe hein, déjà, qui a déjà utilisé. Donc là, c'est le CIO qui doit accepter cette demande. Donc c'est de l'ordre du symbolique, hein, parce qu'on est quand même dans du sport, rappelons-le, et puis on est dans une parade, hein, avec des gens, vous avez le porteur de drapeau ou la porteuse de drapeau.
Enfin, ce serait quand même beaucoup plus révolutionnaire dans le sens en tant qu'avancée pour la paix que tout ce qu'a pu faire Donald Trump, le maître du monde.
Ah,
quand
nous
même.
Sommes bien d'accord sur l'idée. Et alors, il y a une autre chose qui va. Alors, on a appris donc la délégation du Nord va être composée de 550 membres. En France, les médias ont beaucoup aimé parler des pop-up girls envoyées par le Nord. Je ne sais pas si c'est parce que ce sont beaucoup d'hommes qui ont écrit ces articles et que ça les fait fantasmer d'avoir des pop-up girls, ou si c'est parce que c'est marrant d'avoir des pop-up girls qui viennent du Nord. Pour tout vous dire, je pense que c'est plutôt parce que ce sont des hommes qui ont écrit ces articles que ça les fait fantasmer sur les pop-up girls de la Corée du Nord. Il va y avoir aussi des représentants de taekwondo pour une démonstration. Et puis, il va y avoir une équipe commune. Ah, on va loin quand même, un peu plus loin d'ailleurs que le drapeau de l'unification, puisque ça s'est déjà fait. Hein. C'est d'avoir une équipe commune en hockey sur glace pour l'équipe féminine. Donc c'est quand même là un truc c'est un peu particulier, mal, là, ouais. Hein, quand même. Alors, moi je me suis demandé quand même, comment au Sud on acceptait cette idée? Parce que il faut savoir que c'est pas très bien accepté au Sud par les sportifs qui ont peur de ne pas avoir de médaille.
Oui, parce qu'ils se disent ils sont quand même moins bons.
Ils sont moins bons que nous, ils ont moins d'entraînement sur certaines compétitions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de plus mauvais sportifs en soi, mais au Nord, on pratique moins les compétitions internationales. Donc, au Sud, on n'est pas très très content et a priori, les hockeyeuses sud-coréennes sont pas
ravies. Ouais.
Ah, elles font tantiner la gueule. Donc, il y a des pétitions contre cette unification sportive qui est en train d'apparaître en Corée du Sud. Il y a un sondage pas très bon qui dit que ok, c'est très bien qu'il y ait la Corée du Nord à ces JO d'hiver en Corée du Sud, que ça le symbole et la diplomatie, pour la diplomatie c'est très très bon. Par contre, qu'il y ait des équipes communes, ça passe pas très 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 bien au Sud et c'est pas très bien accepté pour l'instant. Donc on va voir si ça va aller jusqu'au bout cette affaire, mais en tout cas l'idée c'est ça, c'est d'essayer par le sport de faire des avancées qui finalement sont quand même un peu une claque à Monsieur Trump qui n'a fait pour l'instant que répondre à la menace par la menace et l'agressivité. Là le Sud essaye de faire un petit peu autrement, ça veut pas dire que d'un seul coup le barjot qui gouverne aujourd'hui la Corée du Nord ne va pas lui aussi se remettre à péter un câble comme Monsieur Trump et donc à menacer tout le monde après la fin de ces JO d'hiver, hein, parce que finalement ça dure non plus pas tellement longtemps. Et puis on va partir tout de suite à Hong Kong, c'est pas très loin. Alors vous savez que Hong Kong c'est un pays et deux systèmes comme on dit, et puis vous vous souvenez certainement qu'en 2014 il y a eu ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours la révolution des parapluies, c'est-à-dire essentiellement des jeunes adultes, des jeunes chômeurs, mais essentiellement des étudiants et des étudiantes qui sont descendus dans la rue, qui avaient fait des énormes protestations, manifestations, qui avaient squatté des coins de Hong Kong et qui avaient refusé de partir. Tout ça s'était terminé avec évidemment beaucoup de répression, mais ça avait aussi amené une nouveauté avec un nouveau mouvement avec une participation aux élections, hein, et puis une entrée au Parlement. Il faut souvenir que Nathan Lowe avait été élu et que en fait il a été exclu puisque lors de sa prestation de serment, il s'est pas présenté selon les protocoles habituels. D'ailleurs, les députés de Demosisto qui avaient été élus sont arrivés soit habillés pas correctement, ça avait fâché les autres, soit avaient refusé de dire les phrases exactement comme le protocole le demandait.
Enfin, j'ai fait exprès.
Hein, et oui, c'est, on est dans la désobéissance civile. Complètement Hong Kong et dans le vrai sens du terme profond, c'est-à-dire nous manifestons pour notre indépendance et quand nous sommes élus jusque au Parlement, nous manifestons et nous continuons encore à être en opposition. On vous rappelle que Hong Kong aujourd'hui, au niveau des élections, c'est la Chine qui impulse ce qui est en train de se passer au niveau des élections à Hong Kong. Et c'est là, comme ça aussi, qu'il y a des manifestations et des oppositions pour dire « Nous voulons être autonomes, nous en avons le droit au niveau de la règle et nous continuons à nous battre. » Alors, il y a toujours des mouvements démocratiques à Hong Kong et on a toujours des gens qui ont des soucis. On a aujourd'hui Joshua Wong qui est le un des leaders avec Nathan Lowe et Alex Cho qui continue à avoir des soucis. Il n'est pas le seul hein, puisque Raphaël Wong aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs procès contre eux. Joshua Wong avait été incarcéré pour avoir refusé de quitter des lieux en août 2014. Il avait finalement été libéré et en attente d'un nouveau jugement sur cette affaire. Et puis, mercredi, il est passé devant un autre juge. Et c'est cette fois pour obstruction et le juge a estimé qu'il était impliqué d'une manière profonde et étendue puisque là c'était pour une affaire de site occupé, un refus de démanteler le camp qui avait été installé par le mouvement des parapluies, c'était en novembre 2014. Et là Joshua Wong, il a pris 3 mois de prison ferme. C'est quand même extrêmement important. Il lui aussi fait partie de Nemo Sisto. Raphaël Wong, un autre manifestant, a écopé lui de 4 mois et demi de prison. Et ce qui est intéressant là, c'est que le juge a refusé à Raphaël et à Joshua d'être libérés sous caution. Donc ils vont rester en prison hein, pour ces mois de jugement là, enfin de condamnation. Excusez-moi. Il y avait d'autres personnes, hein, une quinzaine d'autres personnes qui avaient le même chef d'accusation, qui ont eu des peines avec sursis. Donc en fait, ce que disent là les leaders de la révolution des parapluies, de Demo Sisto, c'est que c'est moment face à la justice, c'était pour savoir si la Chine, les autorités chinoises, avaient toujours la main mise sur Hong Kong, sur les élections, mais aussi sur la justice. Ben, apparemment, oui, là, on en a encore une fois une certitude, puisque c'est comme des peines assez lourdes face à des gens qui sont jeunes. Joshua Wong, il a 21 ans quand même. Ce sont des gens extrêmement jeunes qui sont embarqués dans la recherche d'une démocratie. Donc c'est quand même un truc... pour des vieux que vous pouvez être en train de nous écouter, ben voilà, il y a des gens à travers le monde qui sont très jeunes et qui se battent, qui sont en lutte et qui vont en prison. C'est la révolution des parapluies, elle est donc terminée dans la rue en tant que telle, mais par contre le mouvement, lui, il est toujours en lutte et c'est aussi ça que les leaders de ce mouvement des parapluies, parce qu'il y a quand même des leaders, hein, pour la Chine, ce sont des leaders, ces gens, même si nous ici on n'aime pas appeler ça des leaders, en tout cas ce sont eux qui se sont mis en avant et qui sont montés quand même souvent à la tribune pour prendre le micro et faire des discours. Ben, ils ont toujours des soucis aujourd'hui à Hong Kong et ça reste un gros problème. 3 mois, ça peut-être vous paraître pas beaucoup comme ça, mais faire 3 mois de tôle, c'est toujours en fait beaucoup trop.
Alors, poursuivons avec donc la bioéthique, je ne sais pas de ce dont j'allais parler, mais ils ont ouvert aujourd'hui, le gouvernement, les états généraux de la bioéthique, donc une vaste consultation qui devrait durer 6 mois, dans le but de préparer la révision de la loi bioéthique qui date de 2011. Donc ça a commencé aujourd'hui, c'est organisé comme d'habitude, c'est organisé par le Comité Consultatif National d'Éthique. Et l'idée, c'est de regarder ce que pense la société civile sur des sujets importants liés à la bioéthique. Donc on pense bien sûr à la PMA, la procréation médicalement assistée, à la fin de vie, ce que certains appellent le suicide assisté, le dépistage des maladies génétiques et les risques qui s'accompagnent de ce dépistage, notamment prénatal, l'autoconservation des ovocytes, enfin voilà, tous ces sujets-là qui sont liés à la bioéthique, au développement des recherches en génétique et en biologie. Alors ça va concerner des médecins, des gens qu'on va qualifier d'experts, et puis bien évidemment des associations et des citoyens, puisque il y a un site internet hein, qui va s'ouvrir, on pourra donner notre avis sur différents différents sujets et différents débats vont être organisés dans certaines régions pour parler de ces sujets qui sont un peu compliqués des fois, parce que les gens ne comprennent pas toujours les enjeux scientifiques qu'il y a derrière. Il n'y a pas que des enjeux moraux. Il y a aussi des enjeux scientifiques, des enjeux de recherche, de compréhension de la vie, de compréhension de ce que c'est que voilà des cellules, les maladies génétiques, etc. Notamment la recherche sur les embryons, par exemple, qui pose problème pour certains. Alors que les enjeux scientifiques sont importants. Ben voilà, c'est un gros sujet. C'est pas un truc en l'air et qui n'a pas d'importance. C'est très 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 important. Donc c'est lancé. Alors le gros truc, c'est qu'on sait déjà ce qu'il en est de certaines questions, hein, la PMA par exemple, donc la procréation médicalement assistée qui est autorisée aux couples devrait être généralisée aux couples hétéro, devrait être généralisée peut-être, ça c'est l'idée, aux femmes célibataires. Alors célibataires, ça veut dire aussi donc les femmes homosexuelles, parce qu'elles sont pas déclarées, si elles sont pas déclarées en couple, c'est pareil, c'est transparent, enfin c'est pas visible. Il y a des choses comme ça. On ira, j'imagine, pas très loin non plus, parce que Macron, il est super timide sur ces questions-là. D'abord, il a bien précisé que c'était pas des sujets importants à traiter, en tout cas très rapidement, puisque lui d'abord ce qu'il veut, c'est modifier l'économie. Alors il a déjà pété plein de trucs, donc il va continuer, mais il le dit bien, l'idée c'est de préparer une loi pour 2019, hein, c'est important de le faire, mais on n'est pas pressé, vraisemblablement, enfin en tout cas c'est ce qu'il dit. Voilà, sur la question de la fin de vie, on rappelle que il y a une loi qui s'appelle la loi Leonetti, la Claes Leonetti, qui permet le droit à la sédation profonde et continue, qui était pour la France une énorme évolution, et voire une révolution, qui est encore très très timide par rapport à ce qui peut se passer dans certains pays, voilà, que certains appellent le suicide assisté. Mais l'idée, voilà, c'est de faire progresser cette loi aussi, la loi Claes Leonetti, sur cette fin de vie. Et il y a des nouveaux sujets qui vont arriver, en fait, notamment l'intelligence artificielle, le big data et grosso modo le transhumanisme, puisque derrière aussi ces questions de bioéthique traditionnelle, il apparaît aujourd'hui pas mal de phénomènes liés au transhumanisme, et là il faudra aussi qu'il y ait un positionnement officiel. Alors ce qui est pas rassurant dans tous ces choix là, c'est finalement le Conseil économique, social et environnemental, le CESE ça s'appelle, qui nous le rappelle en ayant reçu le 11 janvier dernier les représentants des cultes, que en fait la religion, elle s'immisce très fortement, elle est très motivée pour intervenir dans ces instances, et là notamment dans ce débat. Alors elle est déjà intervenue, donc quand elle a été convoquée, enfin quand elle a discuté avec le Conseil économique et social et environnemental, notamment c'était le sujet de la fin de vie, où là main dans la main toutes les religions réactionnaires comme on les connaît, c'est-à-dire il y avait un représentant de l'Église catholique, du judaïsme et de l'islam. Alors, a priori, en France, pour les chrétiens ne sont représentés que par l'Église catholique. C'était bizarre, il n'y avait pas du tout... Ah si, il y avait peut-être quelqu'un des églises protestantes. Bon, pas de bouddhistes, voilà. Bon, bien évidemment pas d'athées, hein, présents pour cette réunion. Et eux, ils y sont tous allés, de la vie, il faut la respecter, il faut faire attention, le suicide assisté, ils sont contre. Et ils ont fait une énorme fake news. Hein, parce qu'un jour il y aura peut-être une loi contre les fake news. Ils ont dit attention, la mort, ça n'existe pas en fait. La fin de vie, c'est une transition vers autre chose. Et alors bien évidemment, ça c'est faux totalement. C'est une invention de l'être humain. Il n'y a pas de démonstration prouvant que il y a quelque chose après la mort. Et bon voilà, donc ils y vont avec leur mensonge habituel de croyants, hein, bien évidemment. Mais ce qu'on sait, et Macron l'a déjà dit, il a déjà reçu les religions, il les aime bien. Et ce que le Conseil économique, social environnemental laisse transparaître en les ayant reçus le 11 janvier, c'est que tout le monde au sein du gouvernement, et j'ai peur que au sein de ce comité pour modifier la loi de bioéthique, il y ait beaucoup d'accointances avec ces mouvements religieux, ces mouvements irrationnels, et que au final les citoyens y perdent. C'est quand même ces mouvements qui ont ralenti ces dernières années, et la recherche, et la fin de vie dans des conditions correct pour ceux qui souffrent, celles et ceux qui souffrent et qui cherchent des méthodes pour ne plus souffrir et arrêter de vivre, qui sont obligés d'aller dans certains pays comme la Belgique. Et c'est bien les religions qui limitent tout ça, alors qu'aujourd'hui, elles sont minoritaires en France. Hein, la majorité des gens se réclament athées, et c'est quand même elles qui risquent d'avoir un gros poids, une grosse pression. Donc il va falloir être vigilant sur ce qui est en train de se passer dans cette modification de la loi de bioéthique. Donc voilà, normalement, dans 6 mois... on aura un bilan et une loi en 2019.
Oui, juste pour préciser, il y a beaucoup de gens qui se déclarent pas simplement athées, mais non affiliés à une religion. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des croyances...
Ils sont agnostiques, du coup.
Oui, et puis ouais. Qui croient à des tas de choses comme...
tu veux dire...
Gaïa, comme toucher du bois, comme la superstition...
L'horoscope, comme... tout ça...
Voilà, il y a plein de choses qui, malgré tout, restent tout très présentes, c'est un vrai problème.
L'irrationnel reste très fort...
Mais les gens s'éloignent des religions monothéistes les plus connues en France, en tout cas. On va parler de toute autre chose. Je vais vous parler des derniers chiffres de l'INSEE dans un petit document sur 2017 qui vient de paraître sur les créations d'entreprises en France. Alors pour décembre 2017, c'est un petit document de deux pages, hein, très synthétique avec des diagrammes et quelques phrases. On apprend donc que il y a un nombre d'entreprises tout type confondues qui se replient en création. Il y a pourtant des créations d'entreprises classiques qui augmentent, mais il y a une baisse des immatriculations des micro-entreprises. Je vous rappelle qu'on ne dit plus des auto-entrepreneurs, même s'il s'est largement rentré dans notre langage courant. Nous parlons maintenant de micro-entreprises. Il faut croire que le terme auto-entrepreneur avait pris une certaine connotation et donc il y a eu des modifications de ce terme déjà depuis quelques temps. Et donc on apprend ça sur le mois de décembre qu'il y a eu moins d'immatriculations de micro-entrepreneurs. Mais quand on fait un petit peu un travail sur toute l'année 2017, on s'aperçoit que ces micro-entreprises, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très très bien et qui n'a pas cessé de fonctionner depuis 2009, c'est-à-dire l'année de la création du statut d'auto-entrepreneur. Ça a été une vraie explosion. Il faut dire qu'à chaque fois, les gouvernements permettent d'améliorer ce système avec des baisses de charges par-ci, des simplifications pour la création, pour le suivi. Enfin, voilà, tout est fait en fait pour que nous puissions être heureux en micro-entrepreneur aujourd'hui. Alors, ce qu'on apprend aussi pour cette année 2017, c'est que, évidemment, les chauffeurs de VTC, hein, on a beaucoup parlé d'ubérisation, les livreurs à vélo et autres coursiers qui font travailler leurs mollets sont évidemment très importants dans ces micro-entreprises. Mais il y a une très très forte apparition de ce qu'on appelle, et de ce que l'INSEE appelle les activités de soutien aux entreprises. Et là, on va trouver quoi ? On va trouver le contrôle de gestion, l'expertise comptable, la communication, c'est-à-dire du service aux entreprises, tout simplement. Et on est dans un nouveau phénomène, bon, qui n'est pas nouveau, mais qui est en pleine expansion. C'est-à-dire qu'en fait, on rencontre des anciens salariés qui deviennent indépendants en micro-entrepreneurs et qui travaillent pour donc plusieurs entreprises, finalement plusieurs employeurs, hein, parce que c'est un peu ça l'idée. Là où avant, ils font le même métier que quand ils étaient salariés, sauf que on n'embauche plus ces gens qui faisaient par exemple de la communication ou de la comptabilité directement par le salariat, mais on va les faire travailler, avoir un contrat avec des gens qui sont maintenant des indépendants, donc avec une petite entreprise, tout simplement. Donc voilà, c'est évidemment un effet très pervers, on en a beaucoup parlé ici, mais cette micro-entreprise, comme l'entreprise individuelle, qui a un autre statut, est en pleine explosion. Donc c'est-à-dire que la grande question, c'est est-ce que c'est ça demain l'avenir du travail ? Est-ce que pour tout un tas de secteurs, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir travailler, en tout cas gagner des sous, c'est-à-dire avoir des revenus ? Est-ce que c'est pas par ce type de statut d'entreprise, puisque pour certains domaines, le salariat, ça a l'air quand même... pas terrible, hein, c'est un petit peu mal barré. Alors, ça reste évidemment la norme, hein, pour l'instant, le salariat, on est bien d'accord. Mais il faut savoir que notre nouveau président, Monsieur Macron, a tout plein d'idées avec son gouvernement, et il va y avoir un relèvement du plafond du chiffre d'affaires pour la micro-entreprise. Alors, je ne l'ai pas noté vers moi, mais il me semble que jusqu'à présent, c'est 70 000 euros et qu'on va passer à 140 000. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir un chiffre d'affaires plus important. Et donc là, ça freinait un petit peu des gens qui, à un moment, étaient obligés ensuite de se monter avec une entreprise classique. Et bien là, vous allez pouvoir rester micro-entrepreneur plus longtemps. Hein, c'est pas bien fait, la vie. Et donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on a des améliorations pour que nous puissions tous être plus heureux et plus heureuses en micro-entrepreneurs. Et donc, c'est un petit peu vers ça qu'on va. Et les chiffres de l'INSEE montrent que ça reste quand même de belles opportunités. Alors, on va pas se mentir, c'est vrai que j'ai l'air d'en rigoler en disant de belles opportunités, mais aujourd'hui, des gens qui ne trouvent pas de travail. Donc, ça permet aussi ces micro-entreprises de devenir livreur, par exemple, chauffeur de VTC, et d'avoir des revenus, puisque il y a des gens qui peut-être manquent de diplôme, ne trouvent pas de travail dans le salariat, et peuvent se monter, devenir leur propre patron, comme on dit, et donc d'avoir des revenus, ce qui ne serait pas le cas dans d'autres domaines. Mais je ne sais pas, par exemple, avec Laurent, on a découvert il n'y a pas très longtemps que les gens qui installent la fibre pour les opérateurs Internet, comme SFR, Orange, ce sont en fait des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui viennent chez vous. C'est-à-dire que ce ne sont pas des salariés d'un sous-traitant d'Orange, par exemple, mais ce sont des auto-entrepreneurs. Donc, c'est en train de toucher tout beaucoup de domaines, là où on n'y attendait pas il y a encore pas si longtemps, à la création en 2009 des auto-entrepreneurs. Alors on va rester dans le travail et on va parler maintenant de Europa Corp, vous savez, cette société de production et de distribution de cinéma créée par monsieur Luc Besson. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps avec son film Valériane et la cité des mille planètes. Alors quand j'en avais parlé, je vous ai dit que moi j'avais pas vu le film parce que je n'aime pas le travail artistique de monsieur Besson. Laurent, vous en avez dit quelques mots, on vous avait rappelé que c'était issu d'une BD, on vous avait surtout expliqué que ça avait été un bide, international quand même, il faut le dire, puisque
ça a marché quand même un peu en Chine.
Ouais, mais vite, tu sais, les chiffres,
c'est
ça
là
prend
où ils font
en Chine,
score, en fait.
En Chine, il faut vite se rendre compte, tu fais vite du chiffre aussi, hein, oui. Quand même, il y a quand même beaucoup de consommateurs et de clients, donc forcément, tu fais un petit peu du chiffre. Mais aux États-Unis, ça c'est vraiment, ça a été un énorme bide, et en plus, ça a été un bide critique, donc c'était pas bon pour monsieur Besson. Il faut se souvenir que il avait eu l'idée de vouloir faire une franchise avec ce Valérian, enfin, en voulant faire un deuxième épisode. Bon, a priori, c'est mort, puisque on vous avait aussi raconté qu'en 2016-2017, il y avait une perte record pour Europa Corp de 120 millions d'euros, que la société comptait sur ce film pour renflouer les caisses, et que ça n'a pas marché, et que ça ne marche toujours pas bien pour 2017-2018, puisque d'autres films produits aux États-Unis d'Amérique n'ont pas marché ni aux États-Unis ni en Europe. Donc Europa Corp a pris une décision. La décision, elle est de supprimer 22 emplois sur 79 en France dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est beaucoup, hein, 22 sur 79. Je vous laisse faire un petit ratio et vous rendrez compte que ça va quand même beaucoup gicler. Il faut aussi se souvenir que monsieur Besson, en novembre, a repris la tête de son entreprise, hein, puisqu'il espère comme ça arriver à remettre un petit peu les choses d'aplomb. Il s'est aussi débarrassé de la partie de Europa Corp Télévision France. Europa Corp va garder la partie de production aux États-Unis, par exemple avec des séries comme Taken, parce que ça marche bien, que ça se voit un petit peu de partout dans le monde. Par contre, pour la partie française, ça a été cédé au patron, à l'ancien patron de Europa Corp Télévision. Et puis donc on apprend donc qu'il y a ces 22 emplois sur 79 qui vont être supprimés, et on apprend parallèlement, grâce au travail de cinéfinance.info, que monsieur Besson est quand même la personne qui a touché une meilleure rémunération en tant que producteur, réalisateur tout terrain de ce film qui n'a pas marché, avec donc une rémunération fixe de 4 millions, alors une rémunération, excusez-moi, de 4 millions 4 pour le long métrage, avec un salaire de 2 millions 2 et un minimum garanti sur droit d'auteur 2 millions 2. C'est beaucoup. Le budget, rappelons-le, de ce film était de 197 millions. C'était un record, hein, pour un film hors des studios hollywoodiens. Peut-être que si jamais il touchait un peu moins, ça coûterait un peu moins cher. On avait eu déjà ce débat, cette discussion il n'y a pas très longtemps quand on avait parlé de cette production. Donc voilà, juste pour vous dire que lui, en tout cas, pour monsieur Besson, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, et puis on dira aussi que monsieur Danny Boone est aussi dans ce classement avec un très très bon revenu aussi.
Alors on va parler d'énergie et d'environnement.
Oh oui.
C'est ça. Et je vais commencer par pas mal d'infos sur le nucléaire. Donc la première, c'est ce qui est en train de fuiter de la part du gouvernement sur ce qui va être décidé sur l'avenir du nucléaire en France. Et c'est pas toujours très positif.
C'est un jeu de mots, la fuite.
Ouais, c'est un jeu de mots. Voilà. Donc vraisemblablement, le gouvernement semble privilégier une lente réduction de la production du nucléaire. Alors, vous me direz, c'est pas officiel, et notamment rien n'est officiellement tranché, mais les parties prenantes de la concertation en cours sur la future programmation pluriannuelle de l'énergie, hein, qui est en cours de négociation là, commencent à y voir plus clair. Alors ça fuitait parce que il y a des associations écolos qui sont dans le truc et qui ont balancé un petit peu ce qui est les tractations en cours au sein de cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc l'idée, c'est d'aller donc vers cette diminution, réduction, vous l'appelez comme vous voulez, lente de la part du nucléaire dans la production d'électricité en France. C'est la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, la DGEC, qui discute des scénarios. Et alors ils partent des scénarios proposés par RTE, le Réseau de Transport d'Électricité, qui a proposé 4 scénarios. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont décidé de ne discuter que de 2 scénarios, les 2 qui impactait le moins le nucléaire. Il y en a un qui s'appelle Ampère et l'autre qui s'appelle Volt. Original comme nom, n'est-ce pas? C'est Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État à la transition écologique, qui a confirmé notamment une partie des bruits qui couraient en disant que l'État cherchait à fermer le moins possible de réacteurs. Donc là, on a compris. Alors l'idée, c'est aussi de respecter la loi sur la transition énergétique qui a été votée, c'est-à-dire d'arriver aux alentours de 50% de la production d'électricité d'origine nucléaire d'ici, je sais plus quand, c'est prévu 2030 ou un truc comme ça, là. 2035 peut-être, enfin, j'ai plus la date en tête. Alors, lors de ces différentes réunions, Nicolas Hulot, lui aussi, est intervenu, forcément, ministre de l'écologie, donc il a expliqué un petit peu son point de vue, l'idée de réduire sur le nucléaire, mais il n'a pas remis en cause le choix de ces 2 scénarios étudiés et la confirmation du pourquoi d'abandonner les 2 autres scénarios. Donc, les 2 scénarios, Ampère et Volt, proposés par RTE. Donc, le premier, c'est basé sur l'hypothèse d'une réduction de la part du nucléaire, de manière relativement importante quand même, puisqu'on devrait arriver à 46% du mix énergétique, électrique, avec du nucléaire. Le deuxième scénario, le Volt, lui, il tend vers 56%. Et on sait qu'on pouvait, bien sûr, tendre vers zéro, mais c'est vraiment pas retenu par personne dans ces nucléocrates que sont finalement Nicolas Hulot, qui est pourtant soi-disant pas très pro-nucléaire, et les autres. Donc ça va entraîner la fermeture de quelques réacteurs. Aujourd'hui, on a des négociations en cours à Fessenheim, c'est le plus vieux réacteur et qui devrait fermer d'ici moins de 2 ans. Donc c'est critiqué ce qui est en train de se passer, ces négociations, le fait d'avoir retenu que 2 des scénarios sur les 4 du réseau de transport de l'électricité, les 2 scénarios les plus favorables, ou en tout cas les moins défavorables au nucléaire. Mais la question qui se pose finalement, c'est plutôt sur l'avenir. Et les scénarios, ils sont pas terribles sur l'avenir, puisque finalement il y a 2 possibilités. Alors les scénarios étudient qu'est-ce qui fait si on garde du nucléaire, etc. La consommation dans les scénarios va plutôt baisser sur l'électricité. Ce qui est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils prennent mal en compte, à mon avis, le développement de l'énergie de la voiture électrique, qui sera donc nucléaire, mais de la voiture électrique. Parce que si jamais la consommation diminue, EDF fabrique trop d'électricité et va chercher à en revendre. Or, on l'a vu cet hiver, les marchés de revente de l'électricité, certains jours, sont négatifs. C'est-à-dire qu'ils revendent à perte. Ils donnent de l'argent, mais plus qu'à perte. Ils sont négatifs, c'est-à-dire que les fabricants d'électricité donnent de l'argent pour que les gens consomment. C'est un truc énorme, quoi. Et il y a ce risque-là, quand même. Alors certes, dans ces scénarios, effectivement, l'impact du développement du transport électrique est, moi, je trouve, mal pris en compte. Bon, en tout cas, c'est en train de négocier, et c'est pas très nouveau. On va sur une espèce de consensus mou. On baisse le nucléaire, mais pas trop. Mais pendant ce temps, EDF, donc leader en France de l'électricité et du nucléaire, seule entreprise qui possède des centrales nucléaires en France, hein, d'ailleurs. Alors, abandonne un peu les projets en France, hein, elle continue de construire sa centrale à Flamanville, mais elle n'a pas de nouveaux projets en France pour l'instant. Par contre, elle essaye de développer des projets à l'étranger. Et donc, il y a deux projets de réacteurs nucléaires en Angleterre. Alors, on connaît les deux réacteurs de Hinkley Point C, qui ont été négociés il y a quelques mois, presque quelques années maintenant, enfin un an, un peu plus d'un an. Et là, il y a une négociation avec l'Angleterre pour construire à nouveau deux EPR, deux centrales nucléaires dites de nouvelle génération, à Sizewell C, C en France. Et pour continuer de développer le nucléaire en Angleterre, quand on sait que les coûts sont énormes, c'est assez surprenant. Alors certes, EDF étant au tout début des négociations, ça se trouve le contrat sera signé dans 3 ans et pas avant, donc il y a quand même de la marge de manœuvre, mais les contrats comme ça sur des grosses centrales nucléaires, ça se prépare très longtemps à l'avance, bien avant l'appel d'offres officielle en fait. Du coup, EDF travaille avec les Anglais là-dessus. Ils ont avancé que ça coûterait un peu moins cher de fabriquer cette centrale, à peu près 20% moins cher, parce que bon, ils ont de l'expérience, hein, ça rappelle qu'ils ont construit. Donc d'abord, ils ont construit l'autre centrale anglaise, les deux autres là, le Hinkley Point, et puis il y a la finlandaise, la française et les chinoises qui seront peut-être terminées. Ils seront peut-être arrivés à les démarrer, hein, parce que pour l'instant, on n'en a aucune qui tourne, bien évidemment. Donc on sent que EDF cherche à faire du business ailleurs, parce que il semble que le marché soit pas très porteur en France. Alors, toujours sur le nucléaire, on a le Luxembourg, qui est pas le pays le plus progressiste du monde, vous le savez, notamment du côté bancaire, qui a un projet de loi sur le nucléaire très intéressante et qui va à l'encontre de ce que font tous les pays quasiment qui ont des centrales nucléaires, puisque le Luxembourg a décidé dans ce nouveau projet de loi de protéger beaucoup mieux ses citoyens en cas d'accident nucléaire, parce que ils ont constaté que les conventions internationales ne protègent pas bien les citoyens, et ça c'est vrai malheureusement. Ainsi, le projet de loi, donc déjà ils n'ont pas ratifié les conventions internationales, hein, sur les accidents nucléaires. Et ils sont en train de mettre au point, ils vont la faire valider très bientôt, une loi, notamment en matière de responsabilité civile, qui s'appliquera à un accident nucléaire à l'intérieur d'une centrale classique ou lors d'un transport de matière nucléaire. Et ce projet de loi, il change un petit peu de l'état d'esprit des autres projets de loi. D'abord, il n'y a pas de limite aux dommages et intérêts. Et ça, c'est important de le dire. Dire que la centrale nucléaire qui pète, l'entreprise qui en est responsable, elle doit payer tous les dégâts. Aujourd'hui, les lois internationales et les lois même nationales comme en France, si jamais une centrale, elle pète, en France, on sait que le coût, il est d'une dizaine de milliards, EDF ne paiera que quelques millions d'euros. Le reste, c'est en partie l'État, et une grosse partie sera jamais remboursée aux citoyens, puisqu'on est très mal protégé contre les accidents nucléaires. Donc eux, ils vont loin, ils vont dire, bah non, tous les dommages doivent être remboursés comme dans un accident traditionnel finalement. Alors ça, c'est une révolution. Le Luxembourg est très très en avance sur tout le monde là-dessus. Et alors, donc ils expliquent, attention, à condition que les citoyens respectent aussi les consignes. C'est-à-dire, un citoyen, il y a un accident nucléaire, on demande aux citoyens d'évacuer la zone, et le citoyen évacue pas, il pourra pas réclamer des dommages sur sa santé parce qu'il a pas bougé. Bon, c'est ce qui paraît relativement logique. Ils ont augmenté le délai de prescription, ils l'ont mis à 30 ans. Ce qui paraît logique. On sait que les radiations peuvent entraîner des cancers qui vont se développer 10, 20 ou 25 ans plus tard. Et il faut bien 30 ans de prescription, c'est-à-dire 30 ans de marge de manœuvre pour se retourner contre le responsable de l'accident nucléaire. Donc c'est vraiment une loi très positive qui protège vraiment les citoyens. Donc c'est assez incroyable. Et le plus génial dans tout ça, c'est que ça concerne les autres pays, puisque comme le Luxembourg est membre de l'Union européenne, quand il passe ce genre de loi, il y a un accord, hein, qui s'appelle Bruxelles 1, qui rend les lois sur le sol bruxellois généralisé aux pays qui l'entourent. Et donc si jamais il y a un accident en France et que la radioactivité traverse les frontières parce qu'il n'y a pas de mur pour la radioactivité, ils pourront se retourner contre EDF et demander des dommages intérêts à la hauteur des dégâts causés par EDF. Donc ça, c'est une vraie révolution, et c'est pas tous les jours que le Luxembourg est en pointe sur quelque chose. de positif, ben voilà, une nouvelle loi spéciale sur le nucléaire qui va bientôt être votée et qui protégera réellement, et il y a très peu de pays, voire pas de pays qui en ont une, qui protège réellement les citoyens en cas d'accident nucléaire. Un petit truc sur Bure. Alors c'est une grosse mobilisation qu'on aimerait voir avec une vraie ZAD, alors on dit ça mais on n'y va pas, hein, donc c'est facile de le dire aussi, pour lutter contre ce site d'enfouissement qui s'appelle officiellement CIGEO, d'enfouissement des déchets nucléaires. Donc l'autorité de sûreté nucléaire a étudié un gros dossier sur le site. Alors ils sont globalement assez contents, ils trouvent que ça va dans le bon sens, que ça devrait pouvoir se faire, sauf sur les boues radioactives, le stockage des boues radioactives qui dont aujourd'hui sont conditionnés dans du bitume, dans des matrices en bitume. Et là ils estiment que il y a des risques d'incendie, et des incendies dans un tunnel creusé à des centaines de kilomètres de mètres sous terre, voire des milliers de mètres sous terre, c'est un peu compliqué à gérer. Donc ils estiment que pour l'instant le projet proposé par l'ANDRA de gestion de ces déchets, de ces boues radioactives emprisonnées dans du bitume est pas bonne. Donc ils leur demandent de revoir la copie et ils citent les exemples d'accidents qu'il y a eu, notamment aux États-Unis, hein, un accident sur un site de déchets nucléaires au Nouveau-Mexique où il y a eu une explosion d'un seul fût sur des milliers, et ça a coûté d'ailleurs plus d'un milliard d'euros de remise en état, et puis ça a été très compliqué à gérer. Donc ils disent ben voilà, c'est pas encore parfait, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour de la mobilisation contre ce centre d'enfouissement. On rappelle qu'il faut qu'il soit stable pour à peu près 100 000 ans.
Alors je voulais revenir sur cette marée noire, hein, qui se passe en mer de Chine. C'est un pétrolier qui s'appelle le Sanchi, qui est enregistré au Panama, mais qui est exploité par la National Iranian Tanker Company, qu'on voit avec l'acronyme NITC, donc un groupe iranien, hein, c'est toujours compliqué, vous savez, avec ce qui est sur l'eau, vous avez un pavillon et puis des gens qui exploitent, qui ne sont évidemment jamais responsables de rien. Donc ça a commencé donc le 6 janvier, et puis le Sanchi a fini par couler. Hein, il est donc à 115 mètres de profondeur.
Ils ont d'abord essayé d'éteindre l'incendie. Enfin, c'était compliqué. Hein.
Oui, alors la Chine a envoyé, comme tu le dis, effectivement, ouais, tout un tas de bateaux pour essayer d'éteindre la chose. Il paraît qu'il y a 4 nappes d'hydrocarbures, que ça représente 101 km². Et il paraît, j'ai pas été vérifié, que c'est la superficie globale de la ville de Paris. Je vous laisse aller vérifier pour voir si c'est vrai.
Donc, grosso modo, c'est énorme.
Voilà, en tout cas, ça veut dire ça. Je vais d'abord avoir une, avant de parler d'environnement, parler d'avoir une petite pensée quand même, si vous voulez bien, pour les 32 membres d'équipage, 30 Iraniens et 2 Bangladais qui se trouvaient à bord du Sanchi. Ils ont retrouvé 3 corps, je crois. Il n'y aura aucun survivant, hein, il faut bien se le dire. Voilà, des hommes qui sont donc morts, hein, lors de leur travail. Alors, il y a eu plusieurs choses. C'est que d'abord, il y a effectivement eu cette hydrocarbure que trimbalait le Sanchi, 136 000 tonnes, d'un truc qu'on appelle, alors, je ne sais jamais bien le prononcer, le condensate, c'est ça, hein, c'est un hydrocarbure léger, un truc qui est entre l'huile et le gaz. Alors, tout le monde a l'air...
Coup, c'est pas le pire, quand même, normalement.
Non, parce qu'on dit
Les pires, c'est les hydrocarbures lourds.
Ça va s'évaporer.
Voilà.
Donc ça devrait aller. Par contre, là où le machin a sombré, c'est une zone où il y a beaucoup de faune marine, et que ça a posé un problème, parce que c'est aussi un lieu de reproduction et donc un lieu de pêche, il faut le savoir. Et que il va y avoir une pollution atmosphérique, a priori quand même assez importante. Et puis, il y a quand même aussi le mazout, hein, parce qu'un tel pétrolier, ça a besoin de mazout pour ses machines.
Voilà, pour se déplacer.
Et là, on parle de 1000 tonnes. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup moins, bien évidemment, mais ça va aussi être un gros problème. Alors moi, ce qui m'a fait marrer, c'est la réaction des autorités chinoises qui ont fait savoir que non, mais en fait, ça va bien se passer, c'est pas si grave que ça. Bon, quand même, là, la pollution, elle peut toucher la Chine, le Japon, Taïwan, hein, donc c'est quand même un peu 3 pays qui sont touchés par ce naufrage. Ce pétrolier allait en Corée du Sud. En fait, ça a été assez. Si jamais il a eu l'accident, c'est parce qu'en fait, il est rentré dans un vraquier, un autre bateau de Hong Kong. Et donc, ce pétrolier allait en Corée du Sud pour rendre sa cargaison à Hanwha Total. Donc, c'est une compagnie conjointe entre le coréen Hanwha et Total, hein, que nous connaissons bien ici. Donc, c'est quand même une grosse galère, parce que ça, tu l'as dit, hein, ça a pris feu pendant très longtemps avant qu'il sombre. décembre, qu'il va y avoir effectivement une pollution malgré tout atmosphérique et qui va quand même toucher la faune locale, et qu'il y a des gens qui sont morts sur ce bateau, et que voilà, trimballer des tonnes d'hydrocarbures à travers les mers, bah, ça reste quand même un danger, hein. 136 000 tonnes, c'est pas rien, hein. C'est pas juste vous avec votre petite bagnole. Donc il y a quand même des cétacés, poissons, oiseaux et plancton qui peuvent être touchés par cette marée noire en mer de Chine. Voilà, j'avais rien d'autre à en dire à part vous rappeler ça.
J'ai une petite info sur les énergies renouvelables.
Ah pardon, je l'ai coupé.
C'est un nouveau rapport qui est sorti, qui nous vient d'une grosse agence, qui s'appelle l'Agence Internationale des Énergies Renouvelables, l'IRENA, qui compare les coûts. Alors je le fais régulièrement, de comparer les coûts. Et là, ils annoncent des chiffres qui sont très très bons, puisque les renouvelables deviennent compétitifs. Et même les nouvelles formes d'énergie renouvelable, notamment la biomasse ou les choses comme ça, la géothermie profonde qui n'était pas concurrentielle, commence à faire tomber le coût de l'électricité. Aujourd'hui, on est grosso modo sur les renouvelables entre 30 et 100 dollars le mégawattheure. Alors, on va me dire, ça représente quoi ? Alors, le nucléaire, aujourd'hui, est entre 70 et 130 mégawattheure. 70, c'est le cas de la France, par exemple, où le nucléaire a été subventionné un maximum, donc le coût est relativement faible, puisqu'on n'a pas le coût réel, en fait, du coup, c'est très triché, hein, dans le coût. Et les 130, c'est dans les pays où il n'y a pas de subvention, et c'est le coût minimum estimé pour les réacteurs de nouvelle génération du style EPR, qui devrait fournir donc une électricité aux alentours de 130 dollars le mégawattheure. Alors, aujourd'hui, donc, dans les renouvelables, on est entre 30 et 100 dollars. Donc pour pas mal, on a notamment des projets éoliens. La majorité des projets éoliens aujourd'hui qui se développent ont des coûts qui tendent vers le 40 dollars. Donc on est largement en dessous. On va bientôt être à moitié prix du nucléaire. Et ça se développe dans plein de domaines. Alors les chiffres sont sérieux, hein, c'est pas une agence voilà qui de petits écolos qui invente des valeurs. Et ils concluent d'ailleurs leur rapport en disant aujourd'hui, voire demain, pour se tourner vers les renouvelables, ça sera pas forcément des écolos qui vont le faire, mais ça va juste être une décision économique intelligente. Et c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est-à-dire que faire développer les choses au nom de l'écologie, on n'y arrive pas bien. Je veux dire, on a encore des bagnoles majoritairement dans nos rues, on a encore voilà de l'électricité soit nucléaire, soit charbonnée, soit avec du fioul ou du gaz. Ben voilà, on n'y arrive pas pour des raisons écologiques. Par contre, une fois que l'économique rentre en œuvre et que effectivement les renouvelables, c'est quand même beaucoup moins compliqué à fabriquer que de construire une centrale nucléaire, eh ben on risque de gagner par un biais économique, ce qui est triste, mais ce qui est quand même une bonne nouvelle.
Alors on va faire très très vite, on a 4 minutes pour parler de Reporty, cette nouvelle application qui est mise en place d'une manière test à Nice. C'est monsieur Estrosi qui a toujours des bien bonnes idées pour aider la population niçoise après ses nombreuses caméras de vidéosurveillance. Monsieur Estrosi a donc décidé de tester sur 1500 agents de la fonction publique et 500 citoyens volontaires, je cite, une nouvelle application qui va permettre en fait de filmer en direct et de transmettre en direct à la police ce qui se passerait dans la rue, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait un accident qu'il faudrait prévenir les pompiers, ou quelqu'un qui se ferait agresser, quelqu'un qui aurait des soucis.
Ou des incivilités.
Et des incivilités, et donc il faudrait que la police vienne tout de suite. Alors, au-delà du problème que ça pose, hein, délation, surveillance, voilà, toute cette chose-là, le fait que, comme le disent certains policiers, on risque d'avoir une population qui se sente investie d'une mission, je cite des policiers qui se disent que ça leur plaît pas bien cette affaire, il y a quand même deux organisations, Exodus Privacy et la Quadrature du Net, je vais y arriver, qui ont émis quelques doutes sur le bien fondé de cette application. La Quadrature du Net rappelle que ce n'est pas un logiciel libre, hein, puisque c'est une entreprise israélienne qui se développe un peu de partout, hein, puisque c'est une entreprise qu'on appelle une start-up, mais qui en fait existe à New York, en Amérique latine, qui a déjà 60 employés et qui a tout un tas d'investissements. Il y a l'ancien premier ministre travailliste israélien qui a d'ailleurs investi à l'intérieur, qui est actionnaire.
Il y a beaucoup de start-up dans la sécurité en Israël qui se développent, qui sont à la pointe du coup.
Tout ça pour vous dire que c'est un vrai business, hein, ouais, cette application, hein, c'est pas juste pour faire joli et pour aider les citoyens et la population. Donc la quadrature, ça leur plaît pas bien. Et puis Exodus Privacy ont analysé la chose et ont trouvé des trackers, parce que cette application, elle marche sous Android. Android, je vous rappelle, c'est Google, pour faire très simple. Et qu'ils ont trouvé des trackers Google Ads, Google Crash Lyrics et Lytics, pardon, et Google Firebase. Donc en fait, ça, on sait pas bien si ça va pas permettre de surveiller les utilisateurs et utilisatrices. Alors depuis, la ville de Nice, la municipalité est revenue en disant oulala, non non, il fallait surtout pas qu'il y ait de tracker, que non, c'était très très mal, qu'il fallait pas que les données personnelles des utilisateurs et utilisatrices puissent être utilisées. Mais tout le monde reste quand même très sceptique sur le bien fondé de cette application. C'est-à-dire même des policiers, imaginez donc, sont contre cette application. Hein, c'est fou, quoi. Vous voyez, on est même d'accord avec les flics, truc de fou, non, avec certains syndicats. Bah, sur cette question de la non-pertinence, où on va être d'accord avec eux. Et puis, il y a le problème que derrière, bah, c'est une application de plus sur nos mobiles multifonctions. Je me suis engagée à employer ce terme la semaine dernière, je vous rappelle. Et que c'est encore un machin qui, derrière, utilise des produits de multinationales, et que donc bah, ça continue à nous tracer, et que on sait pas bien ce que deviennent nos données personnelles dans cette affaire, même si tout le monde se dédouane en disant mais non, on ne veut pas vous surveiller. Voilà, voilà, voilà. Je voulais juste vous dire ça, parce que c'est quand même le truc de dingue que monsieur Estrosi nous a encore trouvé.
Oui, bah,
il a été faire son marché auprès des entreprises de la sécurité, et il nous a trouvé une chouette petite application. Et donc c'est en thèse jusqu'au mois de mars, et ensuite ça pourrait être généralisé si tout ça fonctionne bien.
Ouais, il sera content, il aura des gens qui vont faire de la délation. Voilà, ça va être la classe, quoi.
Ah bah ouais. Imaginez, parce que par exemple, si vous êtes en train de faire un tag, on pourra vous filmer en direct, comme sur Telegram, vous voyez. Ouais. Et puis ça ira direct à la police. Voilà, je sais pas bien après ce qui va se passer, mais voilà, ça sera super. Alors évidemment, on met en avant que si jamais le patron israélien de cette entreprise dit que si jamais les gens avaient eu ça au Bataclan pour le terrorisme, eh ben ça aurait été vachement bien, ça aurait sauvé des vies.
Oh, bah
c'est devenu la belle excuse
ah ouais,
du terrorisme.
Parce que avec son téléphone filmé, ça empêche les mecs de tirer la calèche. C'est un nouveau concept.
C'est ça.
Bravo. Allez.
On vous laisse et on se retrouve bientôt.
Voilà, on se retrouve la semaine prochaine ou pas. Et tout de suite, c'est Radio Dio avec l'émission Papillon.
Il va être présenté au Musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Le film intitulé Mélancolie ouvrière, qui a été tourné dans la région, dans le parc du Pilat et à Saint-Julien-Molette en particulier, qui retrace l'histoire de cette ouvrière d'origine paysanne en soie dans le Dauphiné, première femme syndicaliste du début du 20e, Lucie Beau. Et bien le film sera projeté donc en présence de Jean Armandia, c'est à préciser, le dimanche 4 février.